Chapitre 8. Dans les semaines précédant Halloween, Mr. George Amberson inspecta pratiquement tous les terrains situés en zonage commercial de Derry et des environs. Je ne me faisais pas d'illusions. Je savais que je ne serais jamais accepté par les habitants comme l'un des leurs. Mais je voulais les habituer à la vue de ma Sunliner rouge décapotable allant et venant comme un élément du décor. « Tiens, encore cet agent immobilier qui passe. Ça fait près d'un mois qu'il est ici maintenant. S'il sait ce qu'il fait, il pourrait y avoir quelques retombées financières pour certains. » Quand les gens me demandaient ce que je cherchais, je leur répondais d'un clin d'œil et d'un sourire. Quand les gens me demandaient combien de temps je pensais rester, je leur répondais que c'était difficile à dire. Tout en apprenant la géographie de la ville, j'ai commencé à apprendre la géographie verbale de 1958. J'ai appris, par exemple, que « la guerre » signifiait la Seconde Guerre mondiale et que « le conflit » signifiait la guerre de Corée. Les deux étaient terminés et bon débarras. Les gens s'inquiétaient de la Russie et du prétendu « retard balistique », mais pas trop. Ils s'inquiétaient de la délinquance juvénile, mais pas trop. Le pays connaissait une récession, mais les gens avaient vu pire. Lorsqu'on marchandait avec quelqu'un, ça ne posait absolument aucun problème de lui dire qu'il « faisait le juif » s'il essayait de vous entuber. Les confiseries pour enfants comprenaient des roux-doudous, des biberons de bonbons et des bébés noirs en gélatine. Dans le sud, le régime Jim Crow sévissait. À Moscou, Nikita Khrouchtchev vociférait des menaces. À Washington, le président Eisenhower psalmodiait en faveur de la détente. Je me suis fait un devoir de visiter la défunte Assyrie Kitchener, peu de temps après avoir parlé avec Chas Fratty. Elle était située sur un vaste terrain vague envahi d'herbes folles au nord de la ville, qui serait effectivement un endroit idéal pour un centre commercial, une fois réalisé le prolongement de l'autoroute 1 mile par minute. Mais le jour où je l'ai visité, laissant ma voiture et continuant à pied quand la route a laissé place à une piste encombrée de gravats mortels pour les essieux, j'aurais pu me trouver parmi les ruines d'une civilisation disparue. Contempler mon œuvre, ô puissant, et désespéré. Des piles de briques et des morceaux de vieilles machines rouillées émergeaient de l'herbe haute. Au milieu gisait une cheminée en céramique depuis longtemps effondrée, aux parois noires de suie, à l'énorme gueule emplie de ténèbres. En baissant la tête et en courbant les épaules, j'aurais pu m'introduire à l'intérieur, et je ne suis pas spécialement petit. J'ai beaucoup sillonné, vu et senti Derry au cours de ces semaines d'avant Halloween. Les habitants de longue date se sont montrés aimables avec moi, mais jamais amicaux, à une exception près. J'ai nommé Jas Fratty. Et rétrospectivement, je suppose que ces révélations spontanées auraient dû me paraître bizarres. Mais j'avais quantité de choses à l'esprit et Fratty ne me semblait pas si important que ça. Je me disais, ça arrive de rencontrer un type sympathique, c'est tout. Et j'en suis resté là. Assurément, je n'avais pas la moindre idée qu'un certain Bill Turcott avait mis Fratty dans le coup. Bill Turcott. Alias, pas de bretelles. Bévy, la fille qu'aime la vie, pensait que les mauvais jours étaient révolus à Derry. Mais moi, plus j'en voyais et entendais, plus j'en sentais surtout, plus je me disais que Derry n'était pas un endroit comme les autres. Derry avait quelque chose d'anormal. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était ma perception qui était anormale, pas la ville. J'étais un homme privé de ses repères, un nomade temporel, et n'importe quel endroit m'aurait paru étrange, décalé, comme ces villes qui ressemblent tant à de mauvais rêves dans les étranges romans de Paul Bowles. Ça m'a paru convaincant au premier abord, mais à mesure que les jours passaient et que je continuais à explorer mon nouvel environnement, ça le devenait de moins en moins. J'ai même commencé à mettre en doute la certitude de Beverly Marsh, selon laquelle les mauvais jours étaient révolus pour Derry. Et je me suis surpris à imaginer, les nuits où je n'arrivais pas à dormir, elles étaient assez nombreuses, qu'elle en doutait elle-même. n'avais-je pas entrevu une étincelle de perplexité dans ses yeux? Le regard de quelqu'un qui n'y croit pas tout à fait, mais qui désire y croire, qui a peut-être même besoin d'y croire. Quelque chose de mal. Quelque chose de mauvais. Certaines maisons désertées, par exemple, qui semblaient vous regarder comme les visages de gens souffrant d'une horrible maladie mentale. Une grange vide à la périphérie de la ville, dont la porte du grenier s'ouvrait et se fermait lentement sur des gonds rouillés, dévoilant l'obscurité, la dissimulant, puis la dévoilant à nouveau. Une clôture défoncée sur Cossett Street, à une rue à peine de la maison où Mrs. Dunning et ses enfants habitaient. On aurait dit que quelque chose, ou quelqu'un, avait été balancé à travers cette clôture dans les friches mortes en dessous. Une aire de jeu déserte dont le manège tournait lentement, alors qu'il n'y avait aucun enfant pour le pousser et aucun vent perceptible pour le faire bouger. Il grinçait sur ses roulements à billes cachés, tandis qu'il tournait, tournait. Un jour, j'ai vu un Jésus grossièrement sculpté descendre le canal au fil de l'eau et disparaître dans le tunnel passant sous Canal Street. Il mesurait 1 mètre de long. On distinguait ses dents entre ses lèvres écartées en un rictus hargneux. Une couronne d'épines posée de traviole de façon désinvolte lui saignait le front. Des larmes de sang avaient été peintes sous les yeux blancs bizarres de cette chose. On aurait dit un fétiche vaudou. Sur le pont appelé Pont des Baisers dans Bassey Park, parmi des déclarations de fidélité à la devise du lycée et des promesses d'amour éternel, quelqu'un avait gravé ces mots. « Je vais bientôt tuer ma mère ». Et au-dessous, quelqu'un avait ajouté « Grouille, elle est pourrie de maladie ». Un après-midi, alors que je longeais à pied le côté est des friches mortes, j'ai entendu un glapissement horrible et quand j'ai levé les yeux, j'ai aperçu la silhouette d'un homme debout sur le pont de chemin de fer, pas loin. Il avait un bâton à la main qu'il élevait et qu'il abaissait. Il frappait sur quelque chose. Le glapissement a cessé et j'ai pensé « C'était un chien et il l'a achevé. Il l'a amené ici au bout d'une corde et l'a battu à mort. » Évidemment, je n'avais aucun moyen de le savoir. Pourtant, je le savais. J'en ai eu la certitude sur le moment. Et j'en ai encore la certitude maintenant. Quelque chose de mal. Quelque chose de mauvais. Ces choses-là ont-elles un rapport direct avec l'histoire que je vous raconte? Celle du père du concierge et de Lee Harvey Oswald, le mec au petit sourire entendu et aux yeux gris qui ne croisait jamais les vôtres. Encore une fois, je n'en ai pas la certitude. Mais je peux vous dire encore ceci. Il y avait quelque chose à l'intérieur de cette cheminée d'usine effondrée. Je ne sais pas ce que c'était et je ne veux pas le savoir. Mais j'ai aperçu à l'embouchure un tas d'eau rongée et un minuscule collier à clochette mâchonnée. Un collier qui avait sûrement appartenu au chaton bien-aimé d'un gosse. Et à l'intérieur du conduit, dans les profondeurs de cet énorme boyau, quelque chose bougeait et s'affairait. « Entre, viens voir !» semblait chuchoter la chose dans ma tête. « Oublie tout le reste, Jake. Viens voir. Viens me voir. Le temps n'a pas d'importance ici. Ici, le temps se contente de se dissiper. Tu sais que tu en as envie. Tu es curieux, tu le sais. C'est peut-être un autre trou de terrier, un autre portail. Peut-être que ça l'était, mais je pense pas. Je pense que c'était Derry qui se trouvait là-dedans. Tout ce qui allait mal chez elle, tout ce qu'elle avait de détraqué, tapis dans ce tuyau, en hibernation, laissant croire aux gens que les mauvais jours étaient finis, attendant qu'ils relâchent leur vigilance et oublient qu'il y avait même eu des mauvais jours. Je me suis enfui en toute hâte et jamais plus je ne suis retourné dans cette partie de Derry. Au cours de la deuxième semaine d'octobre, les chênes et les ormes de Cossett Street étaient une explosion de rouge et d'or, je suis retourné voir le centre aéré désaffecté. Aucun agent immobilier chasseur de primes digne de ce nom n'aurait manqué d'explorer en profondeur les possibilités offertes par un site aussi privilégié. Et j'ai questionné plusieurs personnes dans la rue pour savoir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. La porte, bien sûr, était cadenassée. Et depuis quand il était fermé? L'une de ces personnes était Doris Dunning. « Jolie comme un cœur », avait dit Chas Fratty. C'est généralement un cliché, mais dans le cas présent, c'était vrai. Les années avaient dessiné de fines rides autour de ses yeux et de plus profondes aux commissures de ses lèvres. Mais elle avait un teint de velours et une poitrine admirablement galbée. En 1958, au fête de la gloire de Jane Mansfield, les poitrines opulentes sont considérées comme attirantes plutôt qu'embarrassantes. Nous avons parlé sur son perron. Il aurait été malséant qu'elle m'invite à entrer alors que les enfants étaient à l'école et qu'elle était seule à la maison. Cela n'aurait pas manqué de susciter des ragots dans le voisinage, surtout avec son mari qui n'habitait plus là. Elle avait un chiffon à poussière dans une main et une cigarette dans l'autre. Un flacon d'encaustique pour les meubles dépassait de la poche de son tablier. Comme la plupart des gens de Derry, elle se montra polie, mais distante. « À l'époque où il était encore ouvert, m'a-t-elle confié, le centre aéré était un endroit formidable pour les gosses. C'était vraiment agréable d'avoir un complexe comme celui-là, où ils pouvaient aller après l'école et se défouler tout leur content. De la fenêtre de sa cuisine, elle apercevait l'aire de jeu et le terrain de basket, et elle trouvait très triste de les voir déserts aujourd'hui. » Elle pensait que le centre avait été fermé pour cause de coupes budgétaires, mais le mouvement fuyant de ses yeux et la moue de sa bouche m'ont suggéré autre chose. Que le centre avait été fermé pendant l'épidémie de meurtres et de disparitions d'enfants. Les préoccupations budgétaires avaient dû être tout à fait secondaires. Je l'ai remerciée et lui ai remis l'une de mes cartes commerciales toutes neuves. Elle l'a prise, m'a gratifié d'un sourire distrait et a refermé sa porte. Elle l'a fait en douceur, sans la claquer. Mais j'ai entendu un cliquetis derrière et compris qu'elle mettait la chaîne de sécurité. Je pensais que le centre pourrait faire l'affaire le soir d'Halloween. Mais l'idée ne m'emballait pas complètement. Je ne pensais pas rencontrer de difficultés pour y pénétrer, et l'une des fenêtres m'offrirait une belle perspective sur la rue. Dunning pourrait arriver en voiture plutôt qu'à pied, mais je connaissais son véhicule. D'après la rédaction de Harry, la nuit serait déjà tombée, mais il y avait des réverbères. Évidemment, la visibilité fonctionnait dans les deux sens. À moins d'avoir l'esprit totalement accaparé par ce qu'il venait faire, Dunning me verrait presque certainement accourir. J'aurais mon revolver, mais celui-ci n'était pas sûr au-delà de 15 mètres. Je devrais me rapprocher encore davantage avant d'oser tirer. Car le soir d'Halloween, Cossett Street grouillerait de fantômes et de lutins hauts comme trois pommes. Mais je ne pourrais pas non plus attendre pour quitter ma planque qu'il ait pénétré dans la maison. Parce que si j'en croyais le devoir de Harry, le mari et conduit de Doris Dunning avait tout de suite commencé à jouer du marteau. Au moment où Harry était sorti de la salle de bain, tous étaient à terre, et tous sauf Ellen étaient morts. Si j'attendais, je risquais fort de voir ce qu'avait vu Harry. La cervelle de sa mère répandue sur le canapé. Je n'avais pas traversé plus d'un demi-siècle pour n'en sauver qu'un. Alors tant pis s'il me voyait arriver. Je serais l'homme au revolver, il serait l'homme au marteau, sans doute barboté dans la caisse à outils de sa pension. S'il accourait vers moi, tant mieux. Je serais comme un clown de rodéo cherchant à distraire le taureau. Je gesticulerais et gueulerais jusqu'à ce qu'il arrive à ma portée, et là, je lui en collerais deux dans le buffet. En supposant que je sois capable d'appuyer sur la détente. Et en supposant que le revolver ne s'enraye pas. Je l'avais essayé dans une gravière en dehors de la ville et il m'avait semblé parfait. Mais le passé est tenace. Il ne veut pas changer. Après mûre réflexion, j'ai pensé que je pouvais trouver une meilleure planque pour le soir d'Halloween. Avec juste un peu de chance, mais peut-être pas tant que ça. « Dieu sait qu'il y a quantité de biens en vente par ici », m'avait dit le barman, Fred Toomey, mon premier soir à Derry. Mes explorations me l'avaient confirmé. Suite à la vague de meurtres et à la grande inondation de 57, ne l'oubliez pas, il semblait que la moitié de la ville fût à vendre. Dans une bourgade moins austère, un prétendu agent immobilier comme moi se serait probablement déjà vu remettre une clé de la ville et offrir un week-end de coquin avec Miss Derry. Parmi les rues que je n'avais pas visitées, il restait Wymore Lane, immédiatement au sud de Cossett Street. Ce qui signifiait que les arrières-cours de Wymore devaient être accolés aux arrières-cours de Cossett. Ça ne coûtait rien de vérifier. Le 206 Wymore, juste derrière chez les Dunning, était occupé. Mais la maison voisine sur la gauche, le 202, ressemblait à une prière exaucée. La peinture grise était récente, les bardeaux neufs, mais les volets étaient clos. Sur la pelouse rase, la même pancarte jaune et vert que j'avais vue dans toute la ville, en vente par Derry Home Immobilier, m'invitait à appeler un certain Keith Haney pour parler financement. Je n'avais aucune intention de le faire, mais j'ai garé ma Sunliner dans l'allée asphaltée de frais. Quelqu'un mettait vraiment toutes les chances de son côté pour vendre. Je suis descendu et, la tête haute, les épaules droites, je suis allé direct au jardin de derrière. J'avais découvert beaucoup de choses au cours de mes explorations. La moindre n'étant pas que si vous vous comportez comme si vous étiez chez vous, les gens pensent que vous êtes réellement chez vous. La pelouse de derrière était bien tondue, les feuilles soigneusement ratissées pour laisser voir un beau vert velouté. Une tondeuse à gazon était rangée sous la pentille du garage, une bâche verte soigneusement enroulée autour de ses lames rotatives. À côté du mur de soutènement de la cave, une niche arborait une autre pancarte témoin de l'humour facétieux du dit Keith Haney. Maison du toutou. À l'intérieur, une pile de sacs poubelles de jardin pliés avec, posé dessus pour les maintenir en place, un plantoir et un sécateur. En 2011, ces outils auraient été sous clé. En 1958, quelqu'un avait simplement pris soin de les abriter de la pluie. J'étais sûr que la maison était verrouillée, mais peu importe. Je n'avais aucun intérêt à y entrer par effraction. Le fond du jardin du 202 Wymore était fermé par une haie haute d'environ 1,80 m. Moins haute que moi, autrement dit, et même si elle était touffue, on pouvait assez facilement passer au travers pour peu qu'on ne craigne pas quelques égratignures. Mieux encore, en se plaçant dans le coin droit, derrière le garage, on avait une vue en diagonale sur l'arrière-cour des Dunning. J'y ai aperçu deux vélos. Un, de garçon, de marque Schwinn, était posé sur sa béquille. L'autre, couché sur le flanc comme un cheval mort, une roulette en l'air, était celui d'Ellen Dunning. Il y avait d'autres jouets éparpillés, dont la carabine à air comprimé Daisy, Derry Dunning. Si vous avez déjà fait partie d'une troupe de théâtre amateur, ou dirigé un club théâtre dans un lycée, ce que j'avais fait à plusieurs reprises au lycée de Lisbonne, vous savez à quoi les jours précédents Halloween ont ressemblé pour moi. Au début, les répétitions se font dans une atmosphère paresseuse. Il y a de l'improvisation, des plaisanteries, du chahut, et une bonne dose de flirt au fur et à mesure que les pôles d'attraction sexuelle s'établissent. Si quelqu'un manque une réplique ou loupe son entrée en scène au cours de ses premières répétitions, ce sont des occasions de rigolade. Si un acteur se présente avec un quart d'heure de retard, il se fera gentiment réprimander et ça s'arrêtera sans doute là. Puis le soir de la première commence à apparaître comme une possibilité réelle et non plus un rêve fou. Les impros s'arrêtent, la dissipation aussi. Et bien que les blagues continuent, le rire qui les accueille renferme une énergie nerveuse absente jusque-là. Les répliques manquées et les entrées en scène loupées cessent d'être amusantes pour devenir exaspérantes. Celui ou celle qui arrive en retard à la répétition, une fois les décors en place, le soir de la première se rapprochant à grands pas, risque de se prendre un bon savon par le metteur en scène. Et le grand soir arrive. Les acteurs sont en costume, maquillés. Certains sont carrément terrifiés. Tous se sentent insuffisamment préparés. Bientôt, ils vont se retrouver face à une salle emplie de spectateurs venus les voir s'illustrer sur les planches. Ce qui semblait une éventualité lointaine à l'époque des répétitions sur une scène nue a fini par arriver. Et avant que le rideau se lève, un jeune Hamlet, un Willy Loman ou une Blanche Dubois devra se précipiter aux toilettes pour vomir ou chier sa trouille. Ça ne rate jamais. Croyez-moi pour le coup des toilettes, je sais.